Bonjour. Cette fois-ci, avec 3 quarts d'heure, on va y arriver, hein, je vous l'assure. Donc ceux qui sauraient pu, on est toujours dans les voyages de l'apôtre Paul, le dernier. Et normalement, on aborde le dernier point. Donc après, on va faire autre chose un petit peu. Ouais, Paul a été plus vite que moi à les faire, c'est clair. En fait, on avait vu dans une première partie qu'il y avait une question de connaître l'avenir, avec l'esprit qui avertissait Paul de ce qu'il attendait. On a parlé dans une deuxième partie de la façon de parler, et on avait vu le dialogue, en fait, quand Paul il est devant le gouverneur, et que Tertulle se met à l'accuser, et qu'il l'insulte, qu'il se moque du gouverneur en disant « on apprécie tes services » alors qu'il ne savait pas voir les Romains. Et donc on avait vu qu'il y a une différence dans notre façon de parler qui doit être claire par rapport aux gens du monde. Et là aujourd'hui je voulais juste revoir encore la suite de tout ça. C'est-à-dire une fois que Paul est passé devant le gouverneur, il est resté groupir en prison un petit peu, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouverneur qui arrive. Et le nouveau gouverneur, sachant pas quoi en faire, l'a convoqué pour l'écouter, a écouté les accusations des Juifs. Et en fait, Paul a pu rendre témoignage devant un roi qui passait là, et c'est le roi Agrippa. On est dans Acte 25. En fait, si on reprend au chapitre 24, au verset 27, ça dit que 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Donc en fait, il a c'est le successeur Festus après qui veut savoir ce qui se passe. Et donc, au chapitre 25, verset 13, « Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu'il ait la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je siégeais le lendemain au tribunal, et je donnais l'ordre qu'on amène cet homme. » Donc il leur explique qu'il a déjà fait un premier procès, et qu'il ne sait pas vraiment quoi en faire. Et au verset 21, « Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce qu'on l'envoie à César. » Et donc il va y avoir encore l'occasion pour Paul d'expliquer ce qui s'est passé pour lui, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il en a appelé à l'empereur. Et ça, c'était encore une fois quelque chose de bien prévu par Dieu dès sa naissance. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les citoyens romains qui pouvaient demander à ce que leur procès aille devant l'empereur. Les autres n'en avaient pas ce droit-là, mais comme Paul était né romain, il avait ce droit-là. Et il en a profité, il a vu que ça avançait à rien, et a dit « je veux aller devant l'empereur ». Et certainement qu'il devait y avoir une espèce de tri, parce qu'on pouvait pas envoyer n'importe qui pouvait pas dire « je veux aller devant l'empereur » et hop, voilà, on l'envoyait à Rome. Mais là, le cas était apparemment compliqué pour Festus, et donc il a décidé de l'envoyer effectivement. Mais c'est là où c'est vraiment, on voit la provision de Dieu dès la naissance de Paul. S'il n'avait pas été romain, eh ben il en serait resté là, il serait resté dans la prison, et on ne sait pas ce qu'il serait devenu finalement. Mais Dieu lui avait dit « tu rendras témoignage devant moi, de moi, devant les rois, devant les empereurs, devant les grands de ce monde ». Et il lui a donné la possibilité d'aller le faire. Ce que Dieu il nous demande, il nous donne les moyens de le faire. Donc on passe En fait, Paul a donné encore son témoignage devant Agrippa, qui était un roi aussi, donc il a eu encore l'occasion de faire ce que Dieu lui demandait. Et finalement, il a été envoyé à Rome. Et donc, on voit ça au chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Donc, en fait, on peut lire le verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Et donc après, on continue le voyage. Et on s'aperçoit que, d'une façon ou d'une autre, le comportement de Paul, ou on ne sait pas trop exactement ce qui a plu, mais le centenier qui avait la charge de Paul l'a mis dans un cas un petit peu à part. Il a laissé avoir ses amis avec lui. Quand ils ont fait des haltes, il lui a dit, bah, tu peux aller voir tes amis. Et il lui a donné quelques faveurs comme ça. Et on voit vraiment que Paul a trouvé grâce aux yeux du centenier. Et c'est aussi quelque chose, même si dans un sens le monde nous haïra parce qu'on va témoigner de Jésus, il y a des moments où Dieu permettra qu'on trouve grâce aux yeux des hommes et aux yeux de personnes des fois qui ont notre responsabilité. Et ça continue dans la lignée finalement de ce que Dieu avait pourvu pour Paul. Dès la naissance, il pourvoyait des choses. Et là, il continuait, il lui donnait quelqu'un qui prenait soin de lui et qui lui laissait une certaine liberté alors qu'il était simplement un prisonnier. Et donc, quand on voit qu'il y a Aristarque avec, dans le verset, ça dit « Nous partîmes ayant avec nous ». Donc, Luc, il est avec aussi dans le bateau, puisque c'est lui qui raconte les Actes des Apôtres. Donc, il avait un peu de compagnie, Paul, et il a pu être aidé certainement dans ses besoins. Donc, il y a tout un premier, des premières étapes. Et au verset 7, « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, nommée du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Donc c'est à partir de là que je trouve assez intéressant de comparer la navigation à notre vie un petit peu. Alors pour juste un petit complément d'information, quand on voit un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, il semblerait qu'à l'époque, à partir de septembre, ça commençait à être difficile à naviguer pour les bateaux. Et après novembre, c'était impossible. Il fallait laisser passer l'hiver parce que les bateaux pouvaient pas subir les tempêtes et juste le temps. Et on nous dit que l'époque même du jeûne était déjà passée. Et donc il y a un jeûne chez les Juifs qui arrive en fin d'année. Et là, ça nous sert de repère. Il semblerait que cette année-là, c'est autour des années 60 après Jésus, le jeûne tombait le 5 octobre. Donc quand il dit l'époque même du jeûne était passée, on était après le 5 octobre. Donc entre octobre et novembre, ça commençait à être vraiment un moment délicat et c'était pas très bon de se lancer dans l'affaire. Mais comme Paul était prisonnier, on l'écoutait pas vraiment et ils sont partis quand même pour essayer d'aller voir un autre port. Et c'est le point qui est important, je pense, quand on prend nos vies, on a toujours deux destinations possibles au départ. Il y a une destination qui est le port où on est déjà dans ce port-là, et il y a un autre port qui miroite à côté, qui est beaucoup plus beau, qui a l'air bien mieux. Il y a quelque chose qui nous dit, ben, va plutôt dans ce port-là, c'est beaucoup mieux pour y passer l'hiver et qui sera beaucoup plus tranquille. Et on quitte le port dans lequel on était en sûreté. Et finalement, ça c'est notre cas, nous tous. Dans la vie, finalement l'homme il a commencé en étant proche de Dieu, en tout cas Adam et Ève. Et avec le péché, ils ont voulu aller voir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand et avoir la connaissance. Et dans notre vie, on commence tous par partir vers le mauvais port, finalement. On part vers celui que le malin nous montre, et regarde, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui t'intéressent, vas-y, va, et ce sera beaucoup mieux pour l'hiver. Et au verset 13, « Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Et je crois que c'est le point central, finalement, dans nos vies, c'est se croyant maître de leur dessein. Et finalement, je pense que c'est toujours pour ça qu'on fuit ce que le Seigneur nous donne, en tout cas tant qu'on n'est pas chrétien. On se dit, moi je suis capable de gérer ma vie. Il y a plein de gens comme ça, quand on leur dit, ben, il y a le Seigneur Jésus peut t'aider, j'ai pas besoin d'aide moi, fous-moi la paix. Et on dit, ben ouais, mais tu sais, il y a le péché, tout ça, mais ils le voient pas tout ça. Ils pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes et qu'ils peuvent gérer leur vie. Alors on gère, on a une carrière, on a ceci, on a cela, et il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que finalement, quand on avance un petit peu dans l'histoire, on voit qu'il y a une tempête qui est obligée de tout balayer, et que c'est à partir de ce point-là qu'on peut rebâtir des choses solides. donc se croyant maître de leur destin. Et il suffit de lire la suite après pour voir que, en fait, ils étaient maîtres de rien du tout à ce moment-là. Au verset 14, « Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Orakilon se déchaîna sur l'île. » Donc là, quand je lis, essaie de repérer un peu les expressions qui sont employées. On est parti de « ils se croient maîtres de leur destin » et on continue par « le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Donc ils sont maîtres, mais peu de temps après, ils se laissent aller à la dérive et ils contrôlent plus grand-chose. « Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. » Donc on sent qu'ils galèrent, quoi. Je crois que c'est le terme en plus. Et qu'ils essayent de lutter contre et de dire, ben, finalement, ils devaient déjà commencer à cogiter, à se dire, on aurait dû écouter Paul. Finalement, là, on commence à un peu avoir du mal. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et, dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. Et ça aussi, c'est l'étape supplémentaire quand on est parti dans les eaux qui sont tumultueuses, on commence à avoir peur et à se dire, oula, où est-ce que je suis parti? J'étais parti pour aller vers un meilleur port, il y avait quelque chose de joli en vue, et finalement je suis en train de me retrouver, je sais pas trop où, à naviguer, déjà à tenter de naviguer et à tenter de rester au-dessus de l'eau. Et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, on voit vraiment le cas qui s'empire, on l'imagine dans le bateau en train d'avoir de plus en plus peur et de se dire c'est fini pour nous. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et là on arrive au point où Dieu il peut faire quelque chose. Et c'est, je crois que c'est souvent comme ça et je crois qu'il faut qu'on passe par là dans nos vies pour reprendre le bon bateau après. Et c'est ce qui va arriver dans la suite, on le verra. Mais le Seigneur, il nous pousse à un endroit où on contrôle pas trop, où ça commence à s'accélérer, où il y a du vent, où finalement on se laisse emporter, jusqu'au moment où on arrive à perdre toute espérance de nous sauver. Et il faut qu'on prie le Seigneur d'en arriver à ce point-là, de perdre toute espérance en nous-mêmes. C'est le point le plus important de leur navigation, c'est quand ils ont compris que c'était fini, en fait. Et je crois que dans nos vies de chrétiens, on l'a peut-être compris à un moment, mais je suis pas sûr que ça soit compris totalement. On a compris qu'on a besoin de salut. Mais est-ce qu'on avait perdu toute espérance de nous sauver? Et moi, j'ai l'impression que des fois dans ma vie, finalement, j'ai compris des choses, j'ai compris que j'ai besoin du salut, mais je compte encore beaucoup trop sur mes propres possibilités, beaucoup trop sur on peut quand même piloter, ça va aller, le navire il est bon. On va passer et on va aller dans un port qui est bien meilleur. On compte beaucoup trop sur nous-mêmes et même en s'étant donné au Seigneur, eh ben on essaye nous-mêmes de diriger le navire. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on perd pas toute espérance de nous sauver. Et quand on laisse vraiment tout tomber, c'est alors que les choses elles peuvent recommencer. Ce qui est intéressant, c'est que ça dit nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et je me suis demandé, est-ce que Luc, il n'avait pas perdu aussi l'espérance? On a l'impression que dans le bateau, il n'y avait plus que Paul qui espérait en quelque chose et que les autres pensaient que c'était terminé. Et pourtant, Luc devait pas être n'importe quel chrétien. En tout cas, il a suivi Paul dans pas mal de ses voyages et il a écrit beaucoup de choses qui montrent qu'il avait compris des choses du Seigneur. Mais il a perdu toute espérance et c'est rassurant de savoir que même si finalement peut-être que tout le monde ici pouvait perdre l'espérance pour une raison quelconque, le Seigneur donnera une personne qui la garde. Et une personne qui est capable de tirer le reste, de dire non, 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 moi j'ai reçu ça du Seigneur, ça va se passer comme ça, il me l'a dit. Et c'est ce que dit Paul après, au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. » Et ça, c'est encore une fois un exemple de confiance de Paul. Ils devaient être dans un bateau. S'ils avaient tous perdu espérance de se sauver, c'est que ça devait tanguer et que ça se passait pas vraiment bien, qu'ils étaient dans la tempête. Et il leur dit, aucun de vous ne périra. Il leur dit pas juste parce que, moi je sens bien qu'on va s'en sortir, ça va bien se passer, la météo l'a prévu du beau temps et ça va bien se passer. Ils avaient pas la météo à l'époque, de toute façon dans le bateau c'était fini, ils avaient plus de renseignements. Et c'était pas juste une petite espérance comme ça qui les faisait dire ça. Il avait reçu de Dieu qu'aucun ne périrait, donc personne ne périra. Il peut se passer tout ce qu'on veut, le bateau il peut prendre l'eau comme Jésus avec ses disciples, personne ne mourra. Et ça je trouve ça épatant de s'accrocher autant à ce que Dieu a dit. Il me l'a dit, ça va se passer comme ça, c'est tout. Il pourrait presque, le bateau être en train de se disloquer, Paul sait que de toute façon, personne ne se perdra. Et c'est un exemple pour nous de, quand on a reçu des choses du Seigneur, est-ce qu'on est capable de s'y accrocher avec cette pugnacité, quoi, l'envie de, non, ça va se passer comme ça. Contre vents et marées, ça va se passer comme ça parce qu'il me l'a dit. Et je me dis que pour s'accrocher autant à ce que Dieu dit, ben il faut être sûr que c'est Dieu qui le dit. Ça c'est le point clé, parce que si on a un doute, on se dit ouais, peut-être que finalement c'était pas du Seigneur et c'était moi-même. Alors c'est là que ça commence en général à se dégringoler, on perd toute confiance et on se dit ben c'était mes propres idées, c'est n'importe quoi. Mais Paul il connaissait tellement bien Dieu qu'il savait que c'était Dieu qui lui avait parlé. En plus pour lui c'est très clair, c'est un ange de Dieu qui est venu le voir dans la nuit et qui lui a dit ces choses-là. Donc il pouvait absolument pas se tromper. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens ici à qui des anges sont venus leur dire « Bah écoute, ça va se passer comme ça et Dieu me demande de transmettre ce message-là. » Il nous le dit, je peux pas dire pas toujours, mais pas souvent d'une manière aussi claire que ça. Quoique. En fait, je me demande si c'est pas nous qui avons des fois l'oreille un peu dure. On demande d'avoir un ange parce que c'est facile, au moins ça on se trompe pas. Mais des fois on a des versets qui nous sautent aux yeux, on sait pertinemment que c'est Dieu qui nous a parlé, et finalement quand le bateau il se met à remuer un petit peu, bah, je sais pas trop, peut-être que finalement c'était ma lecture du jour, ça tombait et voilà quoi. Puis j'ai ouvert au pif, bon il y a plein de versets au pif qui peuvent bien tomber dans la Bible, il y a beaucoup d'encouragement. Et on trouve toujours une raison pour dire ben peut-être que c'est pas Dieu qui m'a parlé. Et pourtant, même sans passer par un ange, il peut nous parler d'une manière absolument claire. J'espère que jamais je douterai que c'est le Seigneur qui m'a donné un travail, par exemple. Vous avez compris comment ça s'est passé, je crois que c'est on ne peut plus clair, il n'y a pas eu besoin d'ange. Le Seigneur a organisé tellement bien les circonstances que de toute façon, ça vient de lui. Alors maintenant, si on me dit, bah écoutez, vous n'avez pas le poste, je ne sais pas trop quoi, et ben, je m'accroche comme Paul. Il m'a dit ça, je m'accroche à ça. Et il faut que chacun on soit assez proche du Seigneur pour comprendre quand il nous parle. Et alors s'il nous parle, alors on s'accroche et on cherche pas à comprendre. Lui, c'est ce qu'il fait. Et donc Paul a encouragé tout le monde comme ça. Et finalement, il a été tellement, tellement convaincant, je pense, que ils ont même coupé les chaloupes à un moment. On le voit juste après. Au verset 27, « La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Cette fois-ci, maintenant que tout va mal, et que lui, il a une confiance dure comme fer dans le Seigneur, alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Et là, pas rassuré quand même, hein, on n'a plus de bateau de sauvetage, on n'a plus de canot de sauvetage, hein, il n'y a plus rien. Il faut juste tenir à ce que Paul a dit. Mais maintenant que les choses elles vont mal, eh ben, on peut s'accrocher à ce que disent les chrétiens. Et ça, je crois que c'est un point aussi. Pourquoi est-ce que le Seigneur il permet des fois qu'on traverse des tempêtes? C'est parce que quand on est dans la tempête, nous, on a une ancre solide, on a une assurance. Et à ce moment-là, les autres peuvent nous écouter. Quand tout va bien, les gens ne nous écoutent pas, on n'a pas besoin de les écouter. Mais quand il n'y a plus rien et qu'il n'y a plus que le chrétien qui est comme une ancre ou comme un phare, alors on sait que lui, il y a quelque chose de vraiment solide et on peut s'y accrocher. Et il faut qu'on soit comme ça pour les autres. On peut pas être dans la on peut pas même être comme Luc et perdre toute espérance de sauver en même temps que les autres. Il faut qu'on soit comme Paul, tellement solide en Dieu que quand il y a une tempête, nous on est des points de repère. Et ça c'est un défi pour nous parce que souvent on est tellement, je m'aperçois, on est tellement vacillant, tellement pas sûr et on n'a pas toujours quelque chose de concret à donner aux autres. On ne sait pas comment les encourager quand ça va mal. Et pourtant, il y a des choses là, dans ces moments-là, il y a des choses très importantes à faire. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, il peut nous utiliser de manière puissante. Et là, dans ce bateau-là, il y a certainement un nombre de gens incalculables qui ont été sauvés parce que Paul, il a eu le bon comportement au bon moment. Donc après ça, ils ont jeté la cargaison pour essayer d'alléger le navire. Et on voit donc le naufrage en lui-même au verset 39. « Lorsque le jour fut revenu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, comme Paul l'avait dit, comme Dieu l'avait dit, tous parvinrent à terre sains et saufs. Donc après ça, en fait, ils sont arrivés sur l'île de Malte, c'est ce qu'on voit au chapitre 28. Et même là, Paul a continué à être utilisé par Dieu pour guérir quelqu'un dans l'île, avec le, vous connaissez tous l'histoire où le serpent s'est enroulé autour de lui, l'a piqué, et les gens du lieu sont dit il va mourir. Et en fait, il devait mourir dans le bateau, et la justice va l'attraper, il va mourir parce qu'il doit mourir. Et finalement, Paul n'étant pas mort, ils se sont dit, il y a quelque chose de... C'est un dieu. Alors, on espère que Paul a pu leur dire que lui n'était pas Dieu, mais qu'il a pu les amener au vrai Dieu. Mais il s'est passé encore des miracles, en fait, après ça. Ce qui est important, c'est au chapitre 28, verset 11. « Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. » Et donc ils ont pu embarquer sur un nouveau navire et retourner après en Italie et à Rome où ils devaient aller. Et là, ils sont arrivés au bon endroit. Et quand on reprend la comparaison par rapport à notre vie, il faut un moment où le Seigneur nous envoie une tempête pour tout balayer, et il faut un moment où on passe dans l'eau pour après ressortir et prendre la bonne destination. Et ça, c'est l'image du baptême, de dire « je mets en ancienne vie, elle meurt » dans l'eau, et quand je ressors, je suis une nouvelle créature. Et c'est cette même image, en fait, le naufrage. Le navire partait dans la mauvaise direction. On peut dire, le Seigneur, il est méchant, mais il fait bizarrement les choses. Il envoie une tempête, il envoie des difficultés à Paul. Il fallait qu'il balaye tout ça pour renvoyer les choses dans la bonne direction. Et dans nos vies, si on a des tempêtes, il faut se demander, est-ce que je suis parti dans la bonne direction ? Il y a une histoire tout à fait similaire, c'est celle de Jonas, qui était parti complètement à l'opposé. Seigneur a envoyé une bonne tempête, hop, je te fais passer dans l'eau, encore une fois, on retrouve l'eau, et maintenant tu prends le navire pour aller dans la bonne direction. Et c'est plusieurs points au niveau de la tempête. Dans une tempête, les chrétiens sont des points de repère. Donc ça c'est important, même si la tempête n'est pas directement pour nous, on peut servir au Seigneur à ce moment-là et être des points de repère. Et dans la tempête, le Seigneur peut des fois simplement nous rediriger vers une autre direction, dire « tu vas pas là, tu vas là ». Et s'il le fait d'une manière aussi brusque, en général, c'est parce qu'on traîne des pieds et que on y va de « je vais là-bas, je vois rien d'autre, je vais là-bas ». Et le Seigneur, il essaye doucement, « écoute, mon enfant, va là-bas, c'est, il faut que tu ailles là-bas et pas là-bas. Il faut que tu ailles là-bas et pas ici ». Et non, mais Seigneur, je suis maître de mon dessein. Je fais ce que je veux et je vais gérer les choses correctement. Fais-moi confiance, Seigneur. Presque ça, hein, on inverse les choses. Et écoute mon enfant, va là-bas. Le Seigneur, des fois, il doit se dire, je vais lui dire deux fois gentiment, mais je sais très bien qu'il va falloir lui envoyer une tempête tellement il est têtu. Et en fait, je crois que c'est à cause de ça. Souvent, les tempêtes nous viennent dessus. C'est parce qu'on est têtu et qu'on est dur à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et il faut qu'on soit, faut qu'on arrête d'être têtu et juste qu'on écoute ce que le Seigneur veut de nous. Et donc, on arrive à la fin du livre des Actes et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très frustrant. Je ne sais pas pour vous. Et Paul est arrivé à Rome. On l'a mis dans une pièce à part, en fait. Enfin, il avait droit à sa propre maison. Et il avait un garde privé qui n'était pas dans la prison comme tout le monde. Il y avait quelque chose de particulier pour lui. Et il a pu faire venir plein de gens chez lui et leur partager l'évangile. Il a pu renvoyer des lettres aux églises. Et il a même fait venir les juifs. Donc, c'est ce qu'il racontait à la fin des Actes. Et au verset 30, ça dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » Donc, il a continué à suivre le Seigneur. Et moi, c'est vraiment ce verset-là, je me dis, et après, on sait pas, et ça m'a toujours frustré de terminer comme ça sur deux lignes qui concluent rien, quoi. Enfin, on se dit, il y a encore tout le restant de sa vie. Et quand on se renseigne, finalement, dans les épîtres, par-ci, par-là, on retrouve des petits morceaux de la suite de ce qui s'est passé après. Donc, je vous laisse lire tous les épîtres pour le savoir, n'est-ce pas? Non, en fait, il semblerait qu'il soit resté 2 ans à Rome. Alors moi, c'est toutes des choses que j'ai lues et j'ai repéré des trucs qui coincent. Enfin, il y a beaucoup de versions différentes, souvent, et il faut voir les points qui concordent, des choses comme ça. C'est une version possible, je vous dis pas que ça s'est passé comme ça. De toute façon, personne ne saura. Mais il serait resté 2 ans là-bas à Rome, et il a été jugé par un tribunal dirigé par Néron, et il a été relâché. Il n'était pas coupable, il a été relâché. Donc pendant cette période-là, jusqu'au moment où il a été relâché, il a envoyé des épîtres aux églises. Il a écrit à l'épître aux Colossiens, si je ne me trompe pas. Il a envoyé une lettre à Philémon en renvoyant son esclave Onésime. Et il dit même à Philémon, « Je pense que je vais être relâché dans pas longtemps, prépare-moi une chambre. » Donc ça correspond à ce moment-là. Il a écrit aux Éphésiens, il a écrit à plusieurs églises comme ça. Il a été relâché. Étant relâché, il est reparti en balade. Il est intenable, Paul. Et il est parti donc à Rome, à Éphèse, à Troas, donc des villes qu'on a déjà vues. Il est reparti en Crète. Et là, on voit dans l'épître à Tite qu'il a laissé Tite là-bas pour s'occuper de l'église, pour la mettre en forme, mais pour la structurer un petit peu, quoi. Pour lui donner un bon point de départ. Il est passé par Nicopolis aussi. Il a revoyagé comme ça, et il avait dit à Tite, tu me rejoins à Nicopolis, et tu me rejoins là-bas, et on repartira ensemble. Et en fait, il semblerait qu'il ait été arrêté à Éphèse, encore une fois. Et quand on lit l'épître à Timothée, si je ne me trompe pas, il dit à Timothée, méfie-toi d'Alexandre le forgeron, tu connais tout le mal qu'il m'a fait. Et certains pensent que c'est ce Alexandre-là qui l'aurait fait arrêter, et que c'est à cause de lui que Paul a été arrêté la deuxième fois. C'est des suppositions, dire c'est possible, après, limite, on s'en fiche un peu. En tout cas, il a été arrêté une deuxième fois, il a été envoyé à Rome, et là, il a eu la visite de Luc, et quand Timothée a été le voir, Timothée s'est fait emprisonner. Timothée a été relâché, mais Paul a été jugé par Néron, coupable, et donc tué. Là, c'est la vraie fin de l'histoire de Paul. Finalement, on s'arrête avec des bonnes choses quand on lit Acte 28, et la fin, elle est dommage, mais en même temps, c'est la fin d'un serviteur de Dieu. Il n'y a pas de miracle, je veux dire. C'était hygiéné, donc il a été supprimé. Et dans tout ça, en fait, toute cette période-là était une grande bénédiction pour nous, parce que c'est là qu'il a envoyé énormément de lettres. Il a envoyé ses lettres à Timothée, dire « Viens me rejoindre, ramène ce que j'ai laissé à Troas, fais ceci, fais cela. » Il semblerait qu'il ait aussi participé à l'évangile de Marc. En fait, il avait Luc avec lui, il a eu Marc aussi, et ensemble, ils ont rédigé une partie d'un évangile. Ils ont mis en forme les lettres de Paul et puis toute l'histoire, et donc le livre des Actes. Et à Rome, Luc a déjà commencé à publier tout ce qui s'était passé. Et c'est pour ça qu'on récupère le livre des actes, en fait. C'est Luc qui a tout suivi, qui a mis en forme, qui a vu avec Paul et qui a pu le sortir d'une manière qui était correcte. Et quand on s'arrête à ça, en fait, qu'est-ce que ça nous amène de regarder l'histoire de Paul ? Ça fait un bon feuilleton, une bonne histoire, hein ? C'est un bon livre d'action, le livre des actes. Le danger de le lire juste comme un livre d'action ou juste comme un livre historique, c'est de vivre par procuration un petit peu. On se dit, bah, c'était bien ce qu'il faisait, il y a des voyages, tout ça, et on s'imagine tout un tas de choses, mais nous, à côté, on n'en fait pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est de lire l'histoire de Paul comme celle de Jésus, alors, peut-être avec moins d'importance, forcément, mais juste comme un exemple de service. Et si... Moi, je vous encourage à relire tout ça. On a été très très long, hein, ça fait je sais pas combien de temps que j'avais commencé avec ça, mais j'imagine... Vous avez déjà oublié tout ce qu'on a été dit au début, ou une partie en tout cas, ce qui est logique, on ne l'a dit qu'une fois, et il y a plein de choses qu'on oublie au fur et à mesure. Mais je vous encourage vraiment à reprendre le livre des actes et à revoir l'histoire de Paul. On apprend un tas de choses sur comment Paul il s'est simplement laissé briser par le Seigneur, il était complètement brisé, et après il a pu repartir, et c'est là où il a fait tous ses voyages, où il a servi le Seigneur d'une manière grande. On n'a pas beaucoup d'exemples de ce calibre-là, mais c'est pas juste pour nous tenir en appétit, pour nous faire un bon film. C'est un exemple pour qu'on fasse pareil. Il faut pas forcément partir en Chine pour servir le Seigneur. Il faut des gens ici, mais il en faut aussi dans les autres pays. Il en faut partout. Simplement, je suis incapable de vous dire toi le Seigneur te veut là, toi le Seigneur te veut là. C'est à chacun de nous à être proche du Seigneur, comme on l'a vu Paul dans le bateau, en fait. Il était tellement proche qu'il savait que ça venait du Seigneur. Et je vous encourage vraiment à connaître le Seigneur d'une manière tellement forte que vous saurez exactement ce que le Seigneur y veut pour vous. Après, qu'il vous veuille, juste ici, à le servir ici, ou qu'il vous veuille faire des grands voyages et le servir loin, ça, c'est pas mon problème, c'est celui du Seigneur et c'est le vôtre, dans un sens. Mais il faut que vous sachiez qu'est-ce que le Seigneur veut pour vous. Si Paul il était resté dans une petite église là-bas et qu'il avait servi juste là-bas, il serait passé complètement à côté. Sauf si ce que le Seigneur il voulait, c'était ça. Et il y a peut-être des gens qui avaient le calibre de Paul, que le Seigneur a mis, je sais pas, à l'église d'Éphèse, et leur dit « tu bouges pas. Toute ta vie tu restes là et tu me sers là-bas à Éphèse, tu bouges pas. » Ah bah mince, on n'a pas leur histoire à eux, du coup on sait pas ce qu'ils ont fait. Mais devant le Seigneur, ils l'ont servi de la même manière. Mais ils ont fait ce que le Seigneur voulait d'eux. Et je vous encourage vraiment à prendre exemple sur la façon dont il disparaît, Paul. Quand vous relisez, vous apercevez qu'il y a très peu de détails sur sa vie privée. On voit quasiment rien, on ne sait pas s'il avait une maison quelque part pour s'arrêter de temps en temps. On n'est même pas sûr qu'il ait eu une femme à un moment ou un autre. Certains pensent que oui au début. On ne sait pas trop. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas de lui, mais le Seigneur ne veut pas qu'on sache tout ça. Il ne veut pas que ça soit juste comme une histoire où on voit tous les détails et puis... Ouais, c'est croustillant. On a ce terme-là. C'est bien, on connaît plein de choses de Paul. Si je ne mets pas en pratique ce que Paul a fait, ça ne me sert à rien d'étudier sa vie. Et je vous encourage vraiment à lire ça, à relire. Et en fait, il faut lire tout le Nouveau Testament. Je suis désolé, mais les actes, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, toutes les lettres après viennent confirmer, viennent compléter. Et c'est tout un bloc, en fait, le Nouveau Testament. Il faut lire, il faut étudier, il faut prendre exemple, tout simplement. Seigneur, je te remercie de tout ce que j'ai pu apprendre, juste d'un point de vue connaissance, Seigneur, de la vie de Paul. Et Seigneur, j'espère que ça servira, Seigneur, pour comprendre parfois les épîtres, de savoir quel est le contexte, de connaître pourquoi Paul a écrit ça. Et Seigneur, on te prie que tu appliques ces choses à nos cœurs et que tu nous rendes des serviteurs. C'est le mot qui caractérisait Paul. Et Seigneur, je désire de tout mon cœur que ce mot serviteur, ça soit ma caractéristique, Seigneur, et que ça soit celle de mes frères et sœurs. Seigneur, nous ne voulons pas juste annoncer la parole de temps en temps avec nos amis ou des connaissances, nous voulons faire ce que tu veux pour nous, Seigneur, dans sa totalité, sans réduire les choses, sans faire quelque chose de tout petit. Seigneur, on veut juste faire ce que tu veux. Et on te prie de te révéler à nous, Seigneur, d'envoyer ton esprit encore et de nous montrer ce que tu veux pour nous, de nous aider aussi à pas faire preuve forcément d'activisme, Seigneur, à faire un tas de choses, mais aussi être simplement à ton écoute, à te connaître, Seigneur, à passer du temps avec toi. Et Seigneur, comme devait le faire Paul, Seigneur, il a fait tant de choses et pourtant il trouvait le temps de s'arrêter pour venir auprès de toi et trouver la ressource nécessaire pour tout ça. Et on te prie de faire de nous des serviteurs, Seigneur. Amen.